J'étais là jeudi pour accompagner une réflexion sur le pardon. Alors, traiter le pardon en une heure, c'est impossible. Et donc, en rentrant en voiture, j'ai eu l'idée de changer de plan, de ne plus évoquer, je fais comme mon frère, là, comme Fernand, de ne plus évoquer l'homme de l'Ancien Testament que je voulais évoquer ce matin, mais de revenir sur le pardon, sur la partie du pardon qui s'appelle que la Bible appelle les racines d'amertume. Parce qu'effectivement, le pardon, on est tous d'accord que c'est le fondement de la vie chrétienne. Non, faut remettre au début, tout au début. Encore. Ah ben là, tu me casses tout mon truc, là. Tout au début. L'écran bleu, s'il te plaît. Encore. Non, ne regardez pas. Il ne veut pas remonter. Le premier, c'est un écran tout bleu. Voilà, donc, toute la vie chrétienne étant fondée sur le pardon, il est évident que c'est un béaba. Ah non, là, tu as changé de... Il est évident que c'est un béaba de la vie chrétienne et qu'après 5, 10, 15, 20 ans de vie chrétienne, on est tous des pratiquants du pardon et que ça ne nous pose aucun problème. Or, on constate dans la pratique que oui, ça nous pose encore des problèmes. Au niveau mondial, on voit qu'en ce moment, avec l'histoire du Brexit, on pensait que l'histoire de l'Irlande du Nord et du Sud, c'était fini. Ça date d'avril 1998, hein, le traité de paix. Donc c'est terminé. Ils s'entendent bien, ils se font des gros bisous, ils se sont pardonnés, tout va bien. Et puis là, on nous dit, ou avec le Brexit, attention, si une casquette de douaniers se présente, ça va mettre le feu et la guerre va redémarrer. Wow. Puis on monte des reportages où on s'aperçoit que dans certains coins d'Irlande, en fait, depuis 1998, ils ont construit des murs pour vivre en paix sans avoir à se croiser. Donc facile le pardon. L'histoire, avec un grand H, nous démontre le contraire. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'adresse à ses disciples dans le sermon sur la montagne, il en rajoute encore une couche. Matthieu 5, 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains ne font-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même ?» Et verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Et comme le Seigneur est un excellent pédagogue, il ne se contente pas d'évoquer un principe et puis débrouille-toi avec, mais il passe à la mise en pratique et il nous donne deux consignes très simples pour sortir d'un conflit, quel qu'il soit. Première consigne, Marc chapitre 11, verset 25. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Et puis Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. Si au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Mais Seigneur, ce n'est pas possible. Les traducteurs ont dû se tromper parce que dans ces deux passages, il y a tout et son contraire. Les situations, les responsabilités sont inverses dans le deuxième texte par rapport au premier. Dans un cas, c'est si j'ai quelque chose contre mon frère, dans l'autre cas, c'est si mon frère a quelque chose contre moi. Et dans les deux cas, la consigne est la même. Toi, va. si moi j'ai quelque chose contre mon frère, que je dois faire le premier pas, logique, d'accord. Mais quand c'est lui, je ne suis quand même pas responsable. Eh bien, si. Alors, je voudrais essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous expliquer. Alors, on va voir si ça marche. Ça marche, voilà. Alors, A et B, c'est un peu abstrait. On va peut-être prendre un prénom. A, est-ce qu'il y a une Annie dans la salle? Pas d'Annie? Voilà, alors A, ce sera Annie. B, Bertrand. Il y a un Bertrand dans l'église? Bertrand ou Bernard ou... Bernard, oui, il y en a un. Bon, alors Bertrand. Voilà, Annie et Bertrand. Annie, par une incompréhension, une blessure, a agressé, a blessé Bertrand. Et là, quand je parle de blessure, je voudrais bien être net, je ne suis pas en train de prétendre qu'une blessure reçue n'est pas grave. Il peut s'agir juste d'un malentendu, juste un mot déplacé, mais il peut s'agir de quelque chose de grave, voire de très grave et de très traumatisant. Hein ? Ça peut même être parfois terrible. Donc, je ne suis pas en train de vouloir minimiser la gravité de ce geste, de ces paroles, de cette chose qui a déclenché un conflit et qui fait que Annie a finalement fait du mal à Bertrand. Le problème, c'est que désormais, Bertrand est convaincu que la seule façon de sortir du conflit, je vais revenir en arrière, si ça marche, voilà. Bertrand est convaincu que la seule façon de sortir du conflit, c'est que Annie réalise qu'elle l'a agressé et qu'elle vienne lui demander pardon. Et donc, Bertrand va s'enfermer dans son rôle de victime, convaincu qu'il ne possède aucune clé pour sortir du conflit. Que seule Annie, l'agresseur, détient la solution. Et Bertrand a une vue bien étriquée et, je dirais, déresponsabilisante de la situation. Parce qu'un conflit, ce n'est jamais un schéma aussi simple. Car après un premier tour de piste, un conflit dégénère toujours avec une deuxième partie. Et avec le temps qui passe, deux cas de figure se présentent. Bon, je reviens au suivant. Premier cas de figure, rien, aucune réaction. Bertrand est un être hyper spirituel. Bravo. Je pense que des êtres d'une telle sanctification, il en existe quelques-uns, quelque part, là-haut, au ciel. Qu'on ne veuille pas réagir, d'accord, à une agression. Que l'on essaye de ne pas réagir, d'accord. Mais même un grand homme, même si un grand homme comme l'apôtre Paul constate, je ne fais pas ce que je voudrais, mais je fais ce que je ne veux pas. Alors je crois que celui ou celle parmi nous qui affirmerait ne pas réagir dans un conflit, peut s'entendre dire, mon frère ou ma sœur, je crois que tu te surestimes un peu. 1 Corinthiens 3, 18, Paul nous dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, qu'il devienne fou pour devenir sage. La deuxième solution, beaucoup plus courante, comme on dit, c'est que Bertrand fait, comme on dit, le poing dans sa poche. Hein, et ça monte, la tension monte, il rumine, ou pour utiliser une image beaucoup plus biblique, il pousse en lui des racines d'amertume portant des rejetons. Alors peut-être qu'à ce stade, Bertrand va réagir humainement et peut-être même il va tenter d'entrer en contact avec Annie. Mais dans un tel état, avec de telles racines d'amertume, la rencontre ne peut tourner qu'à la catastrophe. Et comme la rencontre va tourner à la catastrophe, eh bien, on va entrer dans un deuxième conflit. Ah, il ne veut plus. Tu essayes de m'avancer, là ? Voilà. On va entrer dans un deuxième conflit au cours de laquelle, par son amertume, Bertrand va devenir l'agresseur d'Annie à son tour. Et donc un deuxième conflit va se superposer au premier où les responsabilités sont inversées. Non, il veut... Ah, je ne sais pas, je réessaye. Oui, voilà, merci. Et comme Annie est une bonne chrétienne très spirituelle, mais il ne faut pas exagérer quand même, on repart pour un tour. Et c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Où l'agression initiale provoque de l'amertume qui elle-même provoque une deuxième agression, etc., etc. Comment briser ce cercle vicieux ? Hébreux 12, verset 15 nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. » Et que plusieurs n'en soient infectés. Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est là le moment le plus difficile du conflit. Quand la parole de Dieu vient dire à Bertrand, tu veux briser le cercle ? Eh bien, quitte ta position confortable spirituellement parlant de victime et ouvre les yeux sur ce que tu es vraiment. Un être blessé, certes, mais aussi un pécheur responsable de son péché, de ce péché souterrain qui s'appelle amertume, susceptibilité, puis blessure envers Annie. Et ça, c'est le moment le plus difficile pour nous. Parce que de tout notre être, de tout son être, Bertrand se rebelle à l'idée de ne plus être une victime. Mais c'est un moment encourageant, parce que c'est le moment où l'infinie sagesse de Dieu est en train de dire à Bertrand, « Bonne nouvelle, toi, tu détiens au moins trois clés pour te permettre de sortir de ce conflit. Finalement, c'est toi et personne d'autre qui détient les possibilités d'être libéré de ce conflit. Sur Annie, tu n'as aucune possibilité d'action, sinon l'agression réciproque. Mais sur le cercle vicieux, tu as les clés. Première clé, dire à Dieu, je confesse mon péché, je confesse mes racines d'amertume, je confesse toutes ces pensées mauvaises qui me sont venues vis-à-vis d'Annie depuis le temps que ça dure. Je confesse que mon attitude vis-à-vis d'elle s'appelle péché et je t'en demande pardon. Et Bertrand, libéré ainsi de son péché, peut désormais réfléchir au conflit initial, mais sans remettre ses lunettes de victime. Parce que tant que Bertrand regarde Annie avec des lunettes de victime, il n'est pas en capacité d'analyser la situation parce qu'il lui manque des éléments. Comment fait-il pour savoir pourquoi Annie l'a agressé ? Peut-être, c'est ce qu'il pense, peut-être est-ce volontaire. Elle l'a fait pour le blesser. Point d'honneur. Peut-être. Ah, est-ce que ça a été volontaire, mais pour lui dire les quatre vérités. Il y avait des choses qu'il devait entendre, et puis comme elle a un caractère dynamique, sans filtre, et quand elle parle, c'est naturel et on lâche le paquet, eh bien c'est blessant. Mais on n'est déjà plus au même niveau. Peut-être a-t-elle dit ou fait volontairement quelque chose par amour. Proverbe 10:10, Proverbe 10:10, version Alfred Kuhn. Celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Proverbe 27:5, mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que de lui laisser croire qu'on ne l'aime pas. Peut-être Annie a-t-elle blessé involontairement. Elle ne s'en est même pas aperçue. Elle ne connaît pas assez Bertrand pour savoir que tel mot va déclencher quelque chose chez lui. Peut-être Annie a-t-elle tout simplement oublié. Peut-être Annie, ayant déjà demandé pardon à Dieu, pense que c'est réglé. J'ai constaté que beaucoup dans les églises pensent comme ça. Pour eux, saluer quelqu'un le dimanche matin, ça revient à dire « pour moi c'est réglé ». Mais comme le pardon n'est pas verbalisé, pour l'autre, ça passe pour de l'hypocrisie. Et hop, on redémarre un tour du cercle vicieux supplémentaire. Quel hypocrite celui-là. Mes amis, le pardon selon la Bible, c'est un acte juridique qui relève de la parole et qui veut qu'on se trouve face à l'autre pour dire « je te demande pardon » ou bien « je te pardonne ». Mais vous voyez bien que Bertrand n'a pas en main tous les éléments pour porter un jugement de valeur. Deuxième clé, toujours selon ces textes, c'est que Bertrand, étant libéré de son péché, d'amertume, peut désormais réfléchir au conflit initial en étant en dehors, avec des lunettes ajustées, comme un homme libre. Et il peut alors dire, en lui-même, « je décide de pardonner à Annie ». C'est ce qu'on a vu jeudi soir, hein. Une des premières actions, c'est pas d'avoir la capacité de pardonner, c'est de le vouloir. C'était notre deuxième point, vouloir pardonner. Dire à Dieu et dire dans son cœur, je veux aller dans la voie du pardon. Enfin, la troisième clé, eh bien, il lui revient, il lui suffit, je ne sais pas comment le dire, d'aller voir Annie et de lui dire, Annie, pardonne-moi d'avoir péché contre toi, d'avoir eu des pensées amères, d'avoir je ne sais quoi. Pas « Annie, pardonne-moi d'avoir péché à mon tour contre toi après que tu m'aies violemment agressé le jour où tu as dit ou fait ceci ou cela. Hein ? Sinon, je réenfile ma peau de victime et je réaffirme à Annie que c'est elle la responsable. » Non, simplement, pardon. Point. Et ce faisant, Bertrand sort du conflit. Il le vide de son contenu. Et il laisse Annie face à sa conscience et à son Dieu. Et c'est là qu'intervient le facteur temps. On l'a évoqué jeudi, et puis sur la route en rentrant, on a dit on a évoqué l'importance du facteur temps, que c'était logique, mais on n'a pas évoqué de fondement biblique pour affirmer que le pardon pouvait ne pas être instantané. Et puis sur la route, là, vers Clermont-l'Hérault, par là, mais revenu à l'idée, ces passages d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Et ces passages nous disent que dans la vie d'homme, le temps donne du sens. J'ai acheté une maison à Montpellier, construite en 1962. Si le gars qui a construit cette maison et qui, au printemps 62, a fait une cloison entre la salle à manger et la cuisine, il avait ses raisons. Si à l'automne 1962, il avait cassé et démoli sa cloison, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sa femme aurait dit, ça y est, il faut le faire enfermer, il ne va pas bien, il y a quelque chose. Par contre, moi, en 2016, quand je décide d'abattre la cloison, 55 ans plus tard, parce qu'aujourd'hui, on vit avec des grands espaces, etc., là, ça a du sens. Donc, vous voyez, le temps donne du sens à ce que l'on fait. Or, Ecclésiaste 3, 7 et 8 nous dit « Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour haïr et il y a un temps pour aimer. » Et moi, ça m'encourage, parce que ça veut me dire que le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui a créé mon psychisme, sait parfaitement que j'ai besoin de temps. Il m'a créé comme ça. Et c'est normal. Et ça, moi, je trouve rassurant. Je n'ai pas à me culpabiliser, parce que selon la nature du conflit, il va me falloir des mois, quelquefois des années, pour entrer dans cette démarche de pardon correctement. Dieu le sait. Et pour moi, c'est rassurant. Maintenant, quand le temps est venu, quand en pardonnant, Bertrand est sorti du conflit, l'a vidé de son contenu, a laissé Annie face à sa conscience et à son Dieu, on se dit, mais comment est-ce possible? Comment cela peut-il se faire? Je vous invite à lire Galates chapitre 6, versets 4 et 5. Galates chapitre 6, versets 4 et 5. Que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et pas en comparaison avec les autres, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Et Romains 12, verset 20. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par cela, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Et je reviens à ce qu'on a évoqué jeudi soir. C'est quoi cette histoire de charbon ardent? Comment, en pardonnant à Annie, je vais lui mettre des charbons ardents sur la tête? Alors, on pense tout de suite, ça veut dire, Bertrand, en se libérant, va faire peser un jugement sur Annie. Effectivement, le psaume 11, par exemple, nous présente les charbons ardents comme le jugement de Dieu. Charbons ardents qu'il fait pleuvoir sur les méchants. Des charbons, du soufre, du feu. Mais on a vu jeudi soir que dans 2 Samuel 22, 9, on nous dit que les charbons ardents, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Et puis en Ésaïe, nous avons lu, Ésaïe chapitre 6, prenez le temps de le chercher. Ésaïe chapitre 6, verset 6. Donc Ésaïe est en adoration devant le trône de Dieu et en même temps se sent profondément indigne et coupable. Et le texte nous dit « Alors un des séraphins vola vers moi, il tenait à la main une braise ou un charbon ardent, selon les traductions, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci a été appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et donc, en se trouvant face à face avec Dieu, Ésaïe quitte la place qu'il pourrait avoir de pauvre petit prophète, incompris, malmené, victime de l'incompréhension, du rejet, des sarcasmes du peuple. Ésaïe prend sa vraie place, celle d'un pécheur conscience de son péché. Et il dit « Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Comme l'a dit Bertrand. Et alors, les charbons ardents sont pour lui un moyen d'être purifié. Donc, si je mets les passages en parallèle, j'en déduis que... Bon, essaye de me le faire avancer, si tu peux. J'en déduis que, finalement, Bertrand, en sortant du conflit, va mettre sur la tête d'Annie des charbons ardents, c'est-à-dire va mettre la lumière de la parole de Dieu, va mettre ce qui sort de la bouche de Dieu sur Annie. Et cette lumière qui contraste avec l'ombre, avec l'origine du conflit, va avoir sur Annie l'effet de mettre en relief ce qui ne va pas chez elle, de lui faire prendre conscience du choix que la parole de Dieu lui offre, jugement sur ce qu'elle a dit ou fait, ou purification par le pardon. Et donc, non seulement Bertrand sort du conflit en utilisant ces trois clés, demander pardon à Dieu pour ses propres péchés d'amertume et autres, demander pardon devant Dieu et devant Annie, pardonner à Annie, mais en plus, sans avoir à lui dire explicitement, par son attitude de pardon, il place Annie devant la possibilité d'être également libérée. Dieu fait bien les choses, finalement. La dernière question qui me vient à l'esprit, mais c'est pourquoi puis-je, dans tous les cas, demander pardon, puis pardonner? Est-ce que quand même, quelque part, la barre n'est pas trop haute? Seigneur, tu te rends compte de ce que tu me demandes. Et Ésaïe nous a montré le début de la piste, et Jésus-Christ a été plus loin dans Matthieu 18. On peut lire Matthieu 18. Matthieu 18, 21. Lorsque Pierre s'approche de Jésus et lui dit, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il en est ainsi dans le royaume de Dieu, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme, ses enfants et tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi, se prosterna et le supplia. « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds, le supplia « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai, je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte et lui dit « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Et Jésus conclut l'histoire qu'il a inventée. Là. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Et là, à nouveau, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Tiens. Voilà. Personne ici pas même Jésus, ne prétend que les blessures ne sont pas graves, minimes. Quand Jésus dit que l'un doit à l'autre 100 deniers, 100 deniers, c'est 3 mois de salaire. Pas rien, 3 mois de salaire, pour faire vivre une famille. Si elle manque, imaginez ce que vous faites, vous, si pendant 3 mois, il n'y a plus un centime qui rentre. Pour un conflit de divorce, par exemple, on pourrait dire, 10 ans de vie gâchée, c'est pas rien. Il y a certainement des contentieux dans nos vies qui ne sont pas négligeables. On ne peut pas les traiter comme si elles n'existaient pas. Que mon frère m'ait offensé, que mon collègue m'ait fait une terrible crasse, ça peut arriver, et je ne peux pas purement et simplement fermer les yeux. Et on pourrait citer beaucoup d'autres exemples, des femmes battues, des enfants martyrs. Le mal qu'on a pu nous faire est quelque chose de réel et on ne peut pas sûrement et simplement fermer les yeux. Et le Seigneur ne me dit pas de fermer les yeux. Donc il n'est pas ici question pour Jésus de mettre en doute la réalité ni le montant de la dette qu'Annie a vis-à-vis de Bertrand. Et là, dans le cas de l'histoire de Matthieu, c'est 3 mois de salaire. Mais la dette de Bertrand, devant son roi, devant Jésus-Christ son Seigneur, est sans commune mesure. 60 millions de deniers, 10 000 talents selon les versions, 60 millions de deniers, 60 millions de jours de salaire. Le rapport est de 1 entre les deux hommes à 600 000 vis-à-vis de Dieu. Alors bien sûr, c'est une hyperbole. Jésus aurait pu dire 300 000 ou il aurait pu dire 4 millions. Ça ne change rien. Alors, comme je ne suis pas banquier, j'ai cherché comment je pouvais me donner une idée. Et donc, j'ai transformé l'illustration du Seigneur, non plus en montant, mais en distance. Moi, j'aime bien la nature, je suis souvent en montagne et la distance, ça me parle davantage. Donc, j'imagine que, alors là on ne peut plus dire Annie parce que vu mes, on va dire Albert, hein, il n'y a pas d'Albert dans la salle ? Non. Donc on va dire que Albert et Bertrand sont ensemble, côte à côte, et puis survient un conflit qui fait que Bertrand considère qu'Albert l'a blessé. Et donc il met une distance. Une distance, comme sur ma photo, la distance est de 10 mètres. Donc je considère que cette distance que désormais le conflit installe entre Albert et Bertrand, c'est une unité, la distance. Dans ce cas-là, le rapport de 1 à 100 000, je ne sais pas si vous voyez l'image à droite, c'est bien, c'est Google Maps ça. Hein, vous voyez, vous êtes tout, un avion à 10 000 mètres d'altitude et vous regardez le lac et l'arbre où est Albert. Et si vous mettez le rapport de 1 à 600 000, ça donne ça. En gros, d'un satellite jusqu'à l'arbre qui est à côté de moi. Et pourtant, Dieu a décidé pour me rejoindre de parcourir ces 600 000 unités. Pour venir me rejoindre au bord du lac. Et il me dit, tu ne peux vraiment pas faire l'unité qu'il reste à faire. Toi, ta part. Sinon, est-ce que tu n'aurais pas un problème ? Mes amis, devant cette dette extraordinaire qui nous a été remise, n'avons-nous pas la force d'imiter notre divin modèle, à notre tour de pardonner. Lui, il a fait les 600 000 unités pour s'approcher de nous. Est-ce que je ne peux pas faire celle qui reste pour me rapprocher de mon frère ou de ma sœur ? Je relis Galates 6. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Que durant les jours qui viennent, chacun médite sur ce qu'il a à faire et sur l'initiative qu'il a, sur les initiatives qu'il a éventuellement à prendre dans sa vie. Et surtout, qu'il manifeste sa reconnaissance devant un tel amour reçu. Amen. Je vous invite à un moment de silence, et puis nous allons chanter un chant qui s'appelle Pardon. Mais nous allons le chanter comme une prière, en restant assis, et puis nous enchaînerons directement avec la scène. Prenons le temps de réfléchir à ce que l'Esprit veut nous dire. Amen.